Écoutez aujourd'hui une émission qui vous est présentée par le pasteur Elios Mikel.
Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous multiplie la grâce et la paix. Merci pour votre fidélité à l'écoute de FM Évangile 66. Ce jour, nous parlerons de miracles. Miracles d'hier et aussi miracles d'aujourd'hui. Cela pour répondre à une question. Le temps des miracles est-il révolu ? Réponse, avec un Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui fait des miracles et à qui tout est possible, non, le temps des miracles n'est pas révolu. Cette parole a pour objectif de vous encourager, bien-aimés, vous qui êtes accablés par la souffrance, vous qui êtes désespérés, vous qui êtes comme face à un mur. Vous avez, comme on dit, tout essayé. Mais avez-vous pensé à vous tourner vers Dieu ? L'Écriture nous affirme ceci, je lis Jacques chapitre 1er verset 17, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Je lis aussi Hébreux chapitre 13 verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Avec l'Évangile, nous affirmons donc, le temps des miracles n'est pas passé. Nous en sommes témoins. Le Seigneur a agi dans notre vie et autour de nous, merveilleusement, avec la même puissance que celle relatée dans les Écritures. Bien-aimé, il s'est certainement déjà trouvé sur votre chemin des soi-disant experts qui vous ont dit, je cite, « Attention, le diable aussi fait des miracles. » Cette parole vous a-t-elle apporté un secours, une espérance ? Actuellement, la monnaie que nous utilisons est l'euro. La gamme des billets en euros comprend 7 valeurs. 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros. Aucun faux monnayeur ne produira de coupure de 300 euros. La fausse monnaie ne peut exister que parce que la vraie est là. L'Écriture, telle une lampe à nos pieds, nous permet facilement d'y voir clair quant à la puissance qui est à l'origine du miracle. En effet, le diable aussi fait des miracles. Mais sa puissance a des limites. Nous le voyons dans le face-à-face de Moïse avec les magiciens d'Égypte, relaté dans le livre de l'Exode. Quand nous cherchons le secours de Dieu, en nous adressant à lui, nous n'avons rien à craindre. Au contraire, Jésus a dit, Matthieu chapitre 7, verset 11, « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Il est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, « Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. » Jésus l'a dénoncé comme étant celui qui, tel le voleur, vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Pour ce qui le concerne, Jésus précise « Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Jean chapitre 10, verset 10. Et l'apôtre Pierre en rend témoignage dans la maison de Corneille, un officier dans la troupe romaine dite « cohorte italienne » en ces termes, je cite, acte chapitre 10, verset 38. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Oui, Dieu fait toujours des miracles, aujourd'hui comme hier. Et il agit bien au-delà de ce que nous pouvons demander. Bien plus, il agit bien au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. À un père désespéré qui a interpellé Jésus en ces termes, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours si tu peux. » Jésus a répliqué, « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écrie, « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Bien-aimé, n'est-ce pas souvent aussi notre cas? Nous croyons, tout en ayant de la difficulté à croire, quand la réponse espérée dépasse notre entendement. Malgré nous, nous limitons Dieu à ce que notre raison accepte comme étant possible. Chaque année, en période de Noël, nous avons une belle occasion de nous remémorer les faits qui ont motivé la fête. Rappel, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai point de relation avec un homme ? Réplique la Vierge Marie à l'ange qui lui annonce cette grossesse extraordinaire. Et pour clore la discussion, l'ange déclare, je cite, Luc chapitre 1er verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Jésus fait une réponse tout à fait identique à celle de l'ange lorsque les disciples manifestent de l'étonnement suite à ce qu'il vient de leur dire. Je cite Matthieu chapitre 19 verset 24, « Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Objection des disciples, « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Nouvelle réponse de Jésus, « C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. » Dieu ne fait jamais la sieste, pas plus qu'il ne prend des vacances. Ce qui parfois freine sa puissance, c'est notre incrédulité. L'Évangile nous rapporte ceci. Dans la ville où Jésus a grandi, Nazareth, il n'a pu faire aucun miracle, si ce n'est qu'il a posé ses mains sur quelques malades et les a guéris. Et Jésus s'est étonné de leur manque de foi. Lui, Jésus, était disposé à faire ce qu'il avait fait ailleurs. Mais leur incrédulité a, entre guillemets, bloqué sa main. Par ailleurs, dans des circonstances inverses, il a montré de l'étonnement devant la foi exprimée par des étrangers, des non-juifs, qui de par leur origine n'étaient pas censés connaître Dieu. Sa puissance est sans limite. Il intervient soit surnaturellement, soit providentiellement, toujours d'une manière qui nous émerveille. Quand le Seigneur intervient surnaturellement, cela veut dire qu'il modifie les lois naturelles qu'il a établies en qualité de créateur. Aux noces qui ont eu lieu à Cana en Galilée, l'eau changée en vin est un miracle. C'est surnaturel. Nombreux sont les témoignages attestés par les Écritures concernant les actions surnaturelles de Dieu. On ne peut les citer tous, mais en lisant les Écritures, ce que bien-aimé, je recommande fortement, notre foi est enrichie, encouragée et nous pousse à faire appel au Seigneur. Oui, cela nous incite à prier, à lui demander d'intervenir dans notre vie. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, nous lisons ceci. Un jour, une femme, dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes, vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. Élisée lui dit-elle, « Tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort Et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes deux enfants pour en faire ses esclaves. Et lui dit, que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Je ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne me reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides. Surtout, emprunte-en assez. Puis rentre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. La femme s'en alla donc. Quand elle fut chez elle avec ses enfants, elle ferma la porte. Et les enfants se mirent à lui passer les récipients et elle les remplissait. À un certain moment, elle dit à l'un de ses enfants, « Passe-moi encore un récipient vide. » Mais ils étaient tous pleins. Et l'enfant lui dit qu'il n'y en avait plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit, « Va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre toi et tes enfants. » Dans cette situation, Dieu a pourvu surnaturellement. Dans quelques instants, nous parlerons de providence. Restez avec nous. Dans l'exemple qui suit, Dieu va pourvoir providentiellement, c'est-à-dire qu'il va, entre guillemets, orchestrer les circonstances. Nous sommes encore dans le deuxième livre des rois, et encore avec le prophète Élisée. Les faits sont rapportés au chapitre 6 et 7. Les troupes syriennes ont assiégé la ville de Samarie et ont provoqué une famine telle que deux femmes en sont venues à manger un enfant. Le roi de Samarie, interpellé sur cette tragédie, a rendu le prophète responsable. Souvent, c'est un réflexe humain. On rend Dieu responsable. Quand cela va mal, c'est la faute de Dieu. Quand cela réussit, cela est attribué à l'habileté de l'homme. Face à cette situation extrêmement tragique, contre toute espérance, Élisée affirmera ceci. Dans 24 heures, il y aura abondance. Un officier du roi, incrédule, déclarera, même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser ? Réponse d'Élisée, eh bien, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Et le Seigneur va utiliser 4 lépreux qui étaient exclus de la ville et qui ont fait choix d'aller dans le camp des Syriens. Il était vide, abandonné précipitamment. Et il y avait là de la nourriture en abondance. Quand la bonne nouvelle sera communiquée à la foule affamée, il y aura une véritable ruée. Ne dit-on pas, ventre affamé n'a pas d'oreille ? L'officier du roi, celui qui affirmait son incrédulité, chargé de réguler le flot humain, n'a pas pu canaliser la ruée des ventres affamés. Il a été piétiné par la foule et il est mort. C'est ce que le prophète Élisée avait annoncé. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'y goûteras pas. Ici, le Seigneur n'a pas fait pleuvoir du blé ou des cailles, mais il a simplement apeuré les Syriens qui ont fui en abandonnant leur ravitaillement. Oui, Dieu est maître du temps et des circonstances. Alléluia! Que ce soit surnaturellement ou providentiellement, bien-aimé, il peut et veut aujourd'hui venir à ton secours. Appelle-le en lui disant ton attente, ton espérance. Aujourd'hui, c'est encore le temps des miracles. Pour nous relier au temps présent et attester tel un témoin parmi des millions d'autres sur notre planète, que le temps des miracles n'est pas passé, je vous fais part de la bonté du Seigneur dont le Seigneur a usé envers moi. Voici les faits. Lundi 26 septembre 2005, dans un village du Haut-Rhin, au moment de débuter une compétition de tennis de table, je m'écroule devant la table. La cause ? Infarctus. Pendant plusieurs mois, je venais de mener une existence chaotique suite au décès de mon épouse le 19 août 2004. J'avais vendu le chalet où nous résidions près de Mulhouse et acheté un appartement à Perpignan. Poursuivant mon activité professionnelle en Alsace, je me nourrissais d'expédients et dormais, pendant un temps, sur un matelas pneumatique au bureau. Mi-septembre, ayant accumulé une grande fatigue et une lassitude profonde, j'ai formulé cette prière. « Seigneur, ramène-moi chez moi. » L'arrêt cardiaque va durer 25 minutes. Je dis bien 25 minutes. La manifestation de la providence de Dieu sera évidente, car l'infarctus aurait pu se produire sur la route alors que j'étais seul au volant ou dans un autre lieu. Mais parmi les pongistes présents se trouvaient 2 secouristes. L'un pratiquera un massage cardiaque énergique, fracturant 2 côtes et le sternum. Comme j'aime à le dire avec humour, je lui ai bien pardonné le fait d'avoir cassé quelques-uns de mes os. L'autre secouriste pratiquera le bouche à bouche. De plus, les secours seront très rapidement sur les lieux. Je serai réanimé après le 5e choc électrique. L'un des secouristes fera cette réflexion. En 30 ans de service, je n'ai jamais vu une telle efficacité dans la chaîne des secours. Oui, c'est bien ici la providence de Dieu. L'émotion aurait pu en rester là si je n'avais pas, au moment de m'écrouler, vomi le repas du soir en l'inhalant dans les poumons. Cela va provoquer une pneumopathie sévère, nécessitant une assistance respiratoire, et il y aura 19 jours de coma. Le pronostic vital est plus que pessimiste. Du dire même d'un spécialiste, c'est comme si m'avait rincé les poumons avec de l'acide chlorhydrique. En clair, c'est mortel. À un beau-frère scientifique de haut rang et bien introduit dans le milieu médical, il sera dit confidentiellement ceci. prépare-toi à un enterrement. Voilà pourquoi depuis, il m'a surnommé le miraculé. Dans cette phase, le miracle de Dieu qui répond à la prière sera évident. Car tout naturellement, pour la grande famille des croyants, dès la nouvelle connue de mon admission au CHU de Mulhouse, au service de réanimation, l'intercession à mon sujet, organisée par mes filles, se met en place dans diverses villes de France et même à l'étranger. Laos, Cambodge, Australie. Explication. L'une de mes filles était missionnaire en Asie du Sud-Est, ayant sollicité l'intercession de ses amis étrangers. Un détail à souligner, l'infection a commencé à régresser et la forte fièvre a baissé au matin qui a suivi un temps spécial de prière organisé un lundi soir précisément à Perpignan, ville de laquelle je suis originaire, et ce temps spécial a été comme la goutte qui fait déborder le vase de la bonté divine répondant aux prières de ses enfants. Au CHU de Mulhouse, le professeur responsable du service de réanimation, puis le médecin responsable du service de pneumologie, ainsi que le cardiologue, diront, chacun à leur manière, que le fait que je sois vivant avec toutes mes facultés est un véritable miracle. Je souhaite donc, pour répondre à la grâce qui m'a été faite, de mériter le surnom de Barnabas, comme un certain Joseph mentionné dans le livre des Actes des Apôtres, car Barnabas signifie « fils d'exhortation », c'est-à-dire, en français courant, « celui qui encourage ». Bien-aimé, l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré à la mort ignominieuse de la croix à cause du grand amour par lequel il nous a aimés. Et l'apôtre de poser la question, comment Dieu, qui a fait un tel acte, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus? Dans quelques instants, nous verrons à quoi peut nous mener cette question. Comment Dieu, qui a sacrifié pour nous son Fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus? Restez avec nous. En posant la question, l'apôtre Paul nous en fait découvrir la réponse implicite qui en découle. Puisque Dieu qui nous aime, et il l'a prouvé dans le fait de ne pas épargner son propre fils, mais de le livrer à la mort ignominieuse de la croix, Dieu est disposé, à plus forte raison, de nous accorder toutes choses en Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, ce jour est pour toi le moment favorable pour faire appel au Seigneur. Ne veux-tu pas prier le Seigneur, lui demander d'intervenir dans ta vie? C'est le moment d'oser espérer en Dieu, d'oser le mettre à l'épreuve. L'Évangile nous rapporte cette parole étonnante de Jésus. Je cite Matthieu chapitre 11, verset 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Cela signifie que Dieu répond positivement à la hardiesse de la foi. Les évangiles rapportent que ceux qui ont osé importuner Jésus, et ils sont nombreux, ont tous obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. Cela peut paraître paradoxal, car importuner a une connotation négative. Et pourtant, les évangiles nous relatent plusieurs cas où des importuns ont été bénis. Pourquoi ? Simplement à cause de leur foi, parce qu'ils ont cru que rien n'est impossible à Dieu et qu'ils ont fait le pas de la foi en venant, entre guillemets, déranger le Seigneur. Bien-aimé, l'aveugle Bartimée, lorsqu'il a appris que Jésus passait près de lui, a demandé à être secouru. Notons au passage que plusieurs, entre guillemets, bien-pensants, l'ont repris, car cela troublait le bon déroulement de la marche. Mais, en réponse à ceux qui lui demandaient de se taire, il a crié plus fort. Nous savons la suite donnée par Jésus. Bien-aimé, le Seigneur passe ce jour sur ton chemin de souffrance. Vas-tu garder le silence et le laisser poursuivre sa route sans rien dire et ainsi manquer l'occasion qu'il te donne de l'appeler à l'aide? Comme Bartimée, élève la voix, insiste. Le Seigneur répond toujours. Puis, à l'occasion, fais-nous connaître la grâce que le Seigneur t'a faite en nous téléphonant ou en nous envoyant un courriel. Le pasteur Éric Sellérier a écrit un livre témoignage intitulé « Connexion divine ». Ce livre est un encouragement à se confier en Dieu. Quelques exemplaires sont encore disponibles aux éditions Esdras, 11 boulevard Ferdinand Buisson, 11 200 Lézignan. Et le téléphone 04 68 40 65 71. Je répète, 04 68 40 65 71. Bien-aimé, je termine en vous lisant une parabole donnée par Jésus. Luc chapitre 18, verset 1er et suivant. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, » disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta « Écoutez, écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera promptement justice. Oui, il leur fera justice rapidement. » Et Jésus ajoute cette question, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Bien-aimé, je vous dis, à bon entendeur, salut et à bientôt. Amen.